Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Omar Megherbi-Moulay, doctorant en psychologie au laboratoire SERPS de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il est psychologue clinicien de la santé et de la prévention. Il est aussi membre doctorant de l'IFERIS et de l'Institut Santé et Société. Présentement à Montréal, on est le 24 mars 2022, dans une mobilité doctorale pour 5 semaines. Donc, bienvenue avec nous, Omar. Merci d'être là. Merci de participer à ce balado.
Bonjour. Merci à vous de m'inviter à ce balado.
Alors, comme première question, on voudrait savoir quel est votre projet de recherche doctorale. Vous êtes à la fin de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre recherche?
Alors oui, bien sûr. Ma recherche part de la problématique de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Donc cette problématique de la consommation d'alcool chez les personnes âgées est souvent déniée, elle est taboue et elle constitue au fait un véritable problème de santé publique. Et l'objectif de ma thèse est de comprendre au fait quels sont les facteurs de risque et de protection qui influencent au fait l'intention de consommer de l'alcool chez les personnes âgées à partir au fait de l'étude des processus comportementaux, cognitifs, émotionnel et relationnel. Clairement, pour faire simple, c'est qu'est-ce qui pousse une personne âgée à consommer de l'alcool. Donc, ainsi, au fait, 4 études ont vu le jour. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé une revue systématique de la littérature, donc qui m'a permis d'identifier les facteurs biopsychosociaux, les outils de dépistage, les options thérapeutiques qui sont associées à la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Ensuite, je suis parti du postulat que préserver la dignité et le bien-être d'une personne âgée, donc c'est de se préoccuper des éventuels problèmes liés à sa consommation d'alcool plutôt que de les ignorer au motif de l'âge. Et donc, suite à ce postulat, donc, j'ai réalisé une deuxième étude nationale auprès de 1419 personnes. Et cette étude, en fait, a permis de valider et d'adapter transculturellement une échelle de bien-être subjectif afin en fait, d'étudier l'impact du bien-être subjectif dans la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Par la suite, donc, j'ai élaboré une étude, donc une troisième étude qui a mis en évidence les relations entre les facteurs biopsychosociaux et la consommation d'alcool auprès de 326 personnes âgées hospitalisées en service de psychiatrie ou à domicile. Et enfin, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle donc la norme subjective perçue, c'est-à-dire ce que pensent au fait les gens. Et j'ai réfléchi également à diverses hypothèses telles que la méconnaissance et les représentations sociales du personnel soignant envers la problématique de la consommation d'alcool peuvent favoriser une sous-estimation des risques chez les personnes âgées. Donc en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que ces croyances sont souvent négligées, mais elles fournissent des informations en fait, détaillées sur les problèmes sous-jacents aux déterminants de la consommation d'alcool. Ensuite, donc, ces facteurs renvoient aux attitudes et aux normes perçues par les personnes âgées, et donc, elles sont précieuses dans la compréhension des freins et des leviers de la consommation d'alcool. Et pour finir, enfin, je suis parti de ces hypothèses et donc j'ai réalisé une 4e étude nationale auprès de 1375 personnels soignants donc une étude qui travaille sur les relations entre la connaissance, les croyances, les représentations sociales et les attitudes soignantes envers la consommation d'alcool des personnes âgées. Voilà pour le projet de ma thèse sous 4 études.
Et j'imagine qu'il va falloir faire le fil conducteur de ces 4 études-là pour présenter les constats de recherche finaux. C'est le travail qui reste à faire.
Oui, en fait, ces 4 études ont comme fil conducteur une méthodologie et une méthode théorique qui permettent en fait, tout simplement de relier ces études. Et là, nous sommes en fait en phase de rédaction du manuscrit de thèse et de finaliser les dernières, dernières études statistiques.
Si on se penche sur les résultats que vous pensez trouver à la fin de cette analyse, comment est-ce que ces études-là peuvent contribuer à la santé de la population, à améliorer la santé de la population? Plus spécifiquement, c'est sûr qu'on parle de la population âgée, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu à cet ajout pour la société?
Donc, clairement, pour la société, ces études-là vont amener une plus-value à différents points. Tout d'abord, si on prend la première étude, c'est une étude qui va apporter, au fait, une mise à jour de la recherche scientifique, de la littérature, parce que c'est une revue de littérature des 10 dernières années. Donc, ça va actualiser la revue de littérature sur la problématique de la consommation d'alcool. Ça va permettre aussi de faire prendre connaissance et conscience aux décideurs politiques et aux acteurs de santé de l'importance de contribuer à l'élaboration de recherches futures sur cette problématique. Également, si on prend par exemple la deuxième étude, qui est une validation d'une échelle, ça va permettre d'amener un nouvel outil d'évaluation du bien-être subjectif en population générale. Et prochainement, une autre étude va être réalisée pour plus spécifiquement sur la population des personnes âgées pour élaborer cette pour tout simplement actualiser cette échelle et la rendre adaptée aux personnes âgées spécifiquement. Et également, nous avons des études comme la troisième étude qui aborde des thématiques spécifiques à notre connaissance jamais étudiées. Notamment dans l'étude sur les déterminants biopsychosociaux, nous avons une variable qui est la nostalgie, et actuellement, aucune étude n'a tout simplement croisé la nostalgie, la question de la nostalgie avec la consommation d'alcool chez les personnes âgées.
Et j'imagine qu'il va aussi y avoir des développements d'outils pour les professionnels de la santé, comme ce sont des acteurs et des actrices importantes dans le fond, le fait de voir ou de trouver des déterminants qui peuvent influencer la santé de ces personnes-là, de cette population-là.
Oui, ben ça, c'est en projet, donc c'est un projet pour un post-doctorat, c'est-à-dire de partir des résultats de ma thèse et d'élaborer au fait une recherche-action pour éventuellement proposer donc des projets d'action en prévention ou promotion de la santé autour de la problématique de la consommation d'alcool chez les personnes âgées, avec tout simplement au fait des actions de terrain avec des outils spécifiques qui permettent au fait tout simplement de sensibiliser autant le personnel soignant, mais aussi les personnes âgées sur cette problématique.
Je me questionne, je vous écoute parler, je me questionne sur la facilité d'obtenir certaines données sur les personnes âgées. Est-ce que, parce que, comme vous dites, c'est tabou de dire qu'on consomme de l'alcool ou qu'on est addict à l'alcool. Est-ce qu'il y a eu des freins à ce niveau-là? Est-ce que les personnes ont été... est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles étaient mal à l'aise d'en parler? Ou je me demande comment, dans la récolte de données, ce facteur tabou a pu teinter un peu les entrevues ou les études.
Alors, clairement, ça a été assez difficile d'approcher certaines personnes âgées parce que, tout simplement, on va dire que la période n'était pas propice pendant la pandémie, d'une part, du Covid-19, mais la problématique du tabou, elle se retrouve surtout au niveau des réponses autodéclarées sur la quantité de consommation d'alcool qui parfois diffèrent au fait de la réalité, parce que notamment aux personnes qui sont hospitalisées ou en EHPAD, par exemple, donc en maison de retraite, on voit la différence entre ce qu'elles consomment et ce qu'elles disent consommer. Donc, éventuellement, c'est vrai que à ce niveau-là, ça reste un biais de l'étude parce que, voilà, c'est des questionnaires autodéclarés. Là, bon, ça fait partie quand même des limites de l'étude et de la difficulté aussi méthodologique d'avoir, on ne pourra jamais avoir exactement les résultats propres à leur propre sommation.
Mais c'est intéressant parce que ça, c'est quand même, la personne se dévoile quand même avec un sondage auto-déclaré, mais peut-être en diminuant un petit peu la consommation réelle, mais la déclare quand même. Alors, il y a une certaine transparence, j'imagine. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet particulier de la consommation d'alcool chez les personnes âgées? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours académique ou autre?
Alors, pourquoi la consommation d'alcool chez les personnes âgées? Au préalable, moi, j'avais déjà, lorsque j'étais en maîtrise, donc en master 1, réalisé donc un mémoire sur la consommation de cannabis chez les adolescents. Donc, j'étais déjà intéressé par tout ce qui est de l'ordre de des addictions, des consommations de substances psychoactives. Ça a toujours été un centre d'intérêt pour moi. Ensuite, en master 2, j'ai fait donc une recherche sur le suicide chez les personnes âgées. Et donc 3 ans après avoir décroché mon master de psychologie, j'ai décidé de reprendre les études pour faire un doctorat. Donc je voulais à la base travailler sur une thématique donc sur les personnes âgées, mais totalement différente, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une lecture d'un journal, j'ai constaté qu'au fait, au Japon, il y avait une personne âgée de 98 ans qui avait assassiné sa femme. Et à la fin de l'article, il y avait écrit « Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps. Est-ce qu'on risque de trouver des criminels de plus en plus vieux ?» Et je me suis dit « Je vais faire une étude sur la corrélation entre la longévité et tout simplement le comportement psychologique et social d'un criminel. Et ça va à ce que les personnes plus vieillissent et plus elles se maintiennent et plus la criminalité va devenir vieillissante ou pas. » Et donc, j'ai postulé donc au laboratoire CEPS pour réaliser un doctorat chez eux. Et j'ai eu l'opportunité Madame Valérie Higer, qui fait partie des médiatrices, puisse tout simplement me prendre en tant que doctorant. Et on m'a tout simplement dit les criminels et des tueurs en série en France, tout simplement âgés, il n'y avait pas tellement. Donc, on m'a proposé de travailler sur quelque chose de beaucoup plus. Quelque chose qui est plus accessible, et je voulais parler donc des substances psychoactives, mais de manière générale. Et là encore une fois, les personnes âgées qui consomment des drogues dures, voilà, ou des toxicomanes, il n'y en a pas tant que ça. Donc on en est venu à tabac ou alcool, et sachant que dans le tabac il n'y a pas cette notion de tabou qui est pour l'alcool, notamment le vin, quelque chose de culturel ancré dans la société, etc. Je trouvais ça que c'était un défi un peu plus important. Et sachant que le tabac, plus les personnes âgées vieillissent, moins elles consomment de tabac, alors que l'alcool, la consommation est maintenue, voire augmente de plus en plus chez les personnes âgées.
Wow, je ne m'attendais pas à ça. Vous me l'apprenez. Là, et je me demande, est-ce qu'il y avait des différences entre le sexe, le genre, au niveau de la consommation d'alcool? Est-ce que ça, c'est une mesure qui vous a interpellé, intéressé?
Donc ça, c'est une mesure qu'en ce moment, on est en train d'évaluer, mais dans les revues de littérature, ce qui est spécifié, c'est que notamment alors, en Europe, je n'ai pas pour le moment pas de données pour le Canada, même si actuellement, je suis en train de réaliser donc, une étude sur les données de l'ESCC au Canada, donc avec les comportements en santé des personnes âgées canadiennes dans le cadre de ma mobilité, où là, au fait, clairement, on a décidé aussi de comparer hommes-femmes pour voir au niveau de la consommation d'alcool si ça différait ou pas. Mais dans la revue de littérature, ce qu'on peut lire, c'est que tout simplement, notamment en Europe et en Europe du Sud, les femmes consomment plus que les hommes. Enfin, les femmes âgées consomment plus que les hommes. Donc ça, c'est ce qui est relevé.
Et dans les diverses études que vous avez menées pour cette recherche-là, est-ce qu'il y a eu des embûches ou des problèmes auxquels vous ne vous attendiez pas, que vous voudriez partager avec nous?
Alors, durant mon parcours de thèse, c'est vrai que réaliser un doctorat, réaliser une thèse, c'est un marathon, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Et simplement, il y a des éléments auxquels on ne s'attend pas et qui arrivent où on ne peut pas agir dessus, hein, notamment la pandémie du Covid. qui a stoppé, voire fragilisé pendant un bout de temps ma thèse, donc notamment pour le recueil de données, parce que tout simplement, les personnes âgées hospitalisées, je n'avais plus accès, et les autres personnes étaient confinées. Donc, pendant le confinement, ça a été très difficile, et c'est durant cette période-là que j'ai réfléchi à la quatrième étude sur le personnel soignant, pour tout simplement rebondir et pouvoir continuer de travailler sur ma thèse. Mais c'est vrai que le Covid a fragilisé nombre de mes collègues doctorants dans leurs recherches. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Les choses sur lesquelles je ne m'attendais pas non plus, c'est que voilà, le doctorat, c'est un travail entre le doctorant et son directeur de thèse. Moi, actuellement, je suis co-dirigé par le CHU de Toulouse, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, donc avec le docteur Bénédicte Julien, supervisé par le professeur Nicolas Franquito, et du côté du laboratoire SERPS, c'est donc Madame Florence Sorde qui a repris la direction. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une autre personne qui est dans le collectif de travail, c'est que vous avez vous, doctorant, aujourd'hui, et le vous, doctorant, d'il y a 3, 4, 5 ans, qui a réfléchi à des choses auxquelles, si vous pouvez le recroiser, vous lui tirerez les oreilles en disant: Mais pourquoi tu as pensé à ça? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? C'est-à-dire que clairement, il y a des choix qu'on a fait lorsque on a commencé notre thèse, qu'au final, après qu'on est sur la rédaction ou sur les analyses ou quoi que ce soit, on peut remettre en question, et c'est tout ça une réflexion qu'on doit avoir sur notre travail. C'est ça qui permet de rendre mature la thèse. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a le nous aujourd'hui, le nous d'il y a 5 ans, donc qui sont en fait parfois en conflit, dans le sens où les idées changent entre-temps. Mais c'est aussi intéressant parce que ça amène aussi à des ouvertures sur des études prochaines. Et ça permet aussi de se dire, mais voilà, bon, là, cette fois-ci, j'ai fait comme ça, mais ça sera à refaire, je ferai différemment, etc., etc.
Ça fait partie du parcours finalement. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous aimeriez dire au Omar de il y a 3-4 ans si vous aviez la chance de lui parler?
Je lui dirais une seule phrase, soit courte et synthétique.
Mais c'est quand même bien parce qu'on s'était donné 20 minutes et on est à 16 minutes. Alors, bravo pour la synthèse. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Ce que j'aimerais rajouter, c'est que tout simplement, lors de cette mobilité, ça m'a permis de découvrir, notamment grâce à Jeanne Hyoul, une discipline qui m'a ouvert les yeux sur un côté de la psychologie que je ne connaissais pas, la psychologie communautaire, qui, au fait, permet aujourd'hui de répondre pas mal à de mes interrogations au niveau de ma thèse, et qui est vachement intéressant dans le sens où il y avait des questionnements, notamment par exemple à la question de la féminité en santé publique, notamment sur les questions de consommation d'alcool chez les personnes âgées, mais également sur des profils de consommateurs, etc. C'est vrai que voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui ne va pas cesser d'être travaillé, il mérite d'être travaillé dessus. Il y a peu d'études qui ont été réalisées par rapport à la consommation d'alcool chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a des représentations de la consommation d'alcool qui sont erronées. On a l'impression qu'en fait, les personnes âgées ne consomment pas beaucoup, mais au contraire, elles consomment sur la durée, c'est-à-dire tous les jours, alors que les jeunes, c'est que le week-end. Et il faut qu'il y ait beaucoup plus d'actions, de prévention et d'études là-dessus, parce que tout simplement, on peut le lire dans la revue de littérature, d'ici 2050, une personne sur quatre aura plus de 65 ans. Et donc, clairement, voilà, on va se retrouver entre personnes âgées. Et si on ne fait rien aujourd'hui, demain, il sera trop tard.
Ben, merci beaucoup, Omar Megherbi-Moulay, d'avoir participé à notre série Balado étudiante. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Bonne chance pour la suite.
Je vous remercie beaucoup.